Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as montré l'exemple qui a marché sur notre terre, marche devant nous, nous t'en prions. Montre-nous le chemin et dans nos cœurs, trouve le désir de te suivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Depuis de nombreux mois maintenant, le peuple d'Israël avait quitté le pays de l'esclavage. Ils avaient marché dans le désert, ils avaient traversé la mer Rouge, ils s'étaient trouvés dans le désert de nouveau, ils avaient vécu des expériences extraordinaires, traumatisantes pour certains, inimaginables. Et après de nombreux mois de pèlerinage dans le désert sous la direction de Dieu, le peuple s'était trouvé sur le seuil de la terre promise. À Kadès Barnéa, le peuple est rassemblé. Et Moïse s'adresse au peuple et leur dit, écoutez, nous sommes maintenant arrivés sur le seuil de la terre promise. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Prenez votre courage en main et allons à la conquête de ce pays. Les responsables du peuple sont venus voir Moïse et lui ont dit, écoute, oui, mais on va peut-être quand même prendre quelques précautions si ça t'ennuie pas. Si on envoyait des espions pour voir comment on va s'y prendre, quelle stratégie on va mettre en place pour attaquer ce pays. Moïse a réfléchi, il a écouté, et il lui a paru que finalement cette idée était bonne de savoir un peu où on va. Et Moïse a décidé de choisir un personnage par tribu pour former une équipe d'espions qui allait explorer le pays et découvrir à quoi il ressemblait ce pays promis où coule le lait et le miel. Dieu d'ailleurs lui a dit, écoute, puisqu'on est ainsi, fais-le. Et pensant avoir l'aval de Dieu, Moïse est allé de l'avant, il a envoyé les espions et ils sont partis. Quand ils sont revenus, vous connaissez l'histoire, ils avaient parcouru à pied toute une section du territoire qu'ils étaient supposés recevoir en héritage. Et ils ont dit, oui, tout ce qu'on a entendu sur ce pays est vrai. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays où les fruits sont fantastiques, c'est un pays merveilleux, c'est une terre promise, mais... il y a des géants. Mais il est imprenable. Mais les villes sont énormes. Mais les murs de ces villes sont gigantesques. Mais les gens sont tellement méchants. Mais, si bien qu'on ne pourra pas l'avoir ce pays-là parce que Dieu nous a trompés, parce que nous n'arriverons jamais, on n'a jamais pouvoir prendre ce pays promis. Et c'était le rapport de 10 d'entre eux, vous vous en souvenez. Josué et Caleb, qui avaient eux aussi parcouru le pays, sont arrivés avec un rapport un petit peu différent. Et vous vous souvenez qu'ils ont pris la parole devant le peuple entier. Et dans le livre des Nombres, chapitre 14, à partir du verset 6, il nous est rapporté une partie de leur discours. Dans le livre des Nombres, au chapitre 14, au verset 6, il est dit « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Cependant, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous savez que Josué et Caleb ont failli perdre leur vie pour avoir apporté ce rapport devant le peuple. Le peuple était prêt à exterminer ces deux individus qui allaient dans un sens inverse de la majorité. Bien plus tard, à la fin de sa vie, Moïse s'est souvenu de cette époque et il a écrit son rapport, ses mémoires, dans le livre du Deutéronome au chapitre 1er. Alors que Moïse est sur le point d'achever sa vie, il repense à tout ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et j'aimerais relire avec vous une partie de ce témoignage dans le livre du Deutéronome, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 19. Deutéronome, chapitre 1er, verset 19. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi, monte, prends-en possession comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Vous vous approchâmes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, arrivèrent jusqu'à la vallée de Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fîtes rebelles à l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Moïse, à la fin de sa vie, se souvient de ces événements tristes finalement qui se sont passés au début encore de leur marche dans le désert. Le moment où Dieu ouvre la porte et où le peuple la referme. Le moment où la terre promise est devant eux. Le moment où Dieu la leur donne et où ils disent « Attends, nous allons voir comment nous allons la prendre. » Moïse réfléchit à ce moment avec émotion parce que il aurait pu rentrer lui aussi peut-être à ce moment-là dans la terre promise. Les espions sont partis, ils ont fait leur rapport et le livre des Nombres nous parle de cela au chapitre 13. Il y a maintenant dans le chapitre 13 des Nombres quelques indications intéressantes que j'aimerais regarder avec vous concernant ces espions. La liste nous en est donnée, et si vous cherchez des noms pour vos enfants, vous pourrez trouver là peut-être l'inspiration. Il y a Chamoua, il y a Shaphat, et il y en a d'autres, Raphu, que vous pouvez trouver si vous avez des enfants. Voilà de jolis noms pour vos enfants, si vous voulez en chercher ailleurs que sur le calendrier. Mais il y a par exemple au verset 6, des gens que nous connaissons. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Et puis, au verset 8, il nous est dit pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. On ne le connaît pas. Et si, pourtant, au verset 16, il nous est dit quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ah, nous le connaissons. Et nous apprenons là que Josué, en fait, s'appelait Osée à l'origine. Moïse a changé son nom. C'est en réalité le même nom que celui du prophète que vous connaissez et qui a un livre à la fin de notre Ancien Testament. Ne me demandez pas maintenant pourquoi l'orthographe est différente. C'est le même nom, Osée. Et le nom Osée signifie « Dieu sauve ». Moïse a changé son nom en Josué, qui veut dire « Dieu est mon salut ». Mais en fait, c'est la même chose. Moïse change le nom de cet homme Et en réalité, en lui donnant un nom dont les mots sont un peu différents, va lui donner un nom dont le sens est exactement identique. En général, dans les Écritures, lorsqu'un personnage change de nom, lorsque Dieu va changer le nom d'un homme, d'un de ses serviteurs, par exemple, c'est parce qu'il s'est produit dans sa vie un événement qui a changé ce personnage, qui a été un moment décisif dans son expérience personnelle avec Dieu. Le changement de nom correspond à un changement de relation avec Dieu, un changement de situation, un changement de caractère, une conversion profonde. Et le nouveau nom va refléter cette nouvelle situation. Mais ici, c'est curieux. Il s'appelait Osée, il s'appelle maintenant Josué, mais le sens est le même. Alors, quel est l'intérêt de changer le nom d'un homme pour lui donner un nom dont le sens est exactement le même? Moïse a sans aucun doute agi sous l'inspiration pour changer le nom de cet homme qui va prendre d'ailleurs sa suite. Parce que lorsque nous y réfléchissons, Josué, c'est exactement le même nom que Jésus. C'est Yeshua. C'est le même nom. Et nous pensons maintenant à cet homme qui s'appelle Josué et qui va être celui que Dieu va utiliser pour conduire son peuple du désert jusque dans la terre promise. Et pensons à Yeshua. Jésus n'a finalement pas une autre mission que celle du Josué de l'Ancien Testament. Lui aussi, Jésus, c'est celui qui doit prendre son peuple, l'emmener de ce désert de misère et de péché dans lequel nous sommes, jusque dans la terre promise. Non pas la terre promise de Canaan où coule le lait, le miel, mais une terre promise où le péché n'est plus. Et l'on comprend tout d'un coup à quel point la vie de Josué, le Josué de l'Ancien Testament, va représenter à bien des égards ce que Josué du Nouveau Testament, Yeshua, Jésus, va faire pour son peuple. De nombreuses actions de Josué, de nombreuses initiatives et de nombreuses victoires de Josué seront une image de ce que Jésus lui-même veut accomplir pour son peuple. Jésus lui-même veut conduire son peuple d'Égypte en Canaan spirituel. Ainsi, Josué, dans l'histoire qui nous est racontée de lui, nous fait sans cesse penser à celui qu'il représente en partie, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Un peu plus loin, dans le même chapitre 13 du livre des Nombres, il nous est parlé de ce que Josué a fait avec Caleb. Il nous est dit au verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Est-ce que vous avez imaginé la taille de cette grappe? Je peux penser, sans probablement me tromper, que Josué et Caleb n'étaient pas les plus rachitiques du peuple d'Israël. Ils devaient être de vaillants soldats, des costauds. Et il en faut deux comme ça pour porter une grappe de raisin. Vous imaginez le repas qu'on fait avec ça? Chaque grain devait être gros comme un pamplemousse, au moins. Ou plus. Et il faut deux de ces costauds pour porter la grappe de raisin sur un bâton entre deux. Vous imaginez cette grappe? Une image du pays qui leur est donné. Dieu le leur donne. Et ils disent, attends, voyons comment nous allons le prendre. Et déjà là, se trouve un exemple parfait de ce salut par les œuvres. Dieu donne et nous disons, attends, je vais voir comment je vais faire pour le prendre. Salut par les œuvres, par leur puissance, par leur stratégie, par leur force. Et Dieu dit, je vous le donne, prenez-le. N'est-ce pas ainsi que souvent on fait avec sa grâce. Il nous la donne. Et nous inventons beaucoup de moyens détournés pour nous l'approprier. Remarquez que Josué et Caleb ne se sont pas contentés d'apporter un rapport oral. Ils ont rapporté des témoins de ce qu'ils avaient à dire. Et ils ont rapporté du raisin, des grenades et des figues. Je pense à Josué, je pense à Yeshua, et je me demande quel fruit donc Yeshua, Jésus, nous a-t-il apporté. Alors j'aimerais regarder ces fruits avec vous et voir comment ils tournent nos regards vers Jésus, celui qui nous conduit vers la terre promise. Le raisin est un symbole bien connu. Très tôt déjà dans la Genèse, il est utilisé par Melchisédek. Et lorsqu'on se reporte au ministère de Jésus, le raisin prend un signe, un sens tout à fait spécial. Pensez au premier miracle que Jésus lui-même va faire, transformer de l'eau en jus de raisin, le fruit de la vigne. Et le texte est très clair. Le texte de l'évangile de Jean au chapitre 2 ne parle pas de miracle. Le mot qui est employé dans ce chapitre pour nous parler de ce que Jésus fait, c'est un signe. À plusieurs reprises dans ce chapitre, le mot est employé. C'est un signe. Jésus veut enseigner quelque chose. Et Jean précise, la fête de Pâques était proche. Quelque temps après, Jésus, dans la discussion qu'il aura avec les pharisiens, va parler du temple. Et Jean va dire, il parle du temple qui est son corps. Et nous avons le début de l'évangile de Jean, les symboles du sacrifice même de Jésus. Le jus de raisin, que l'on associe au sang et qui, bien entendu, va tourner nos regards vers le sacrifice de Jésus. Lorsque, à la fin de son ministère, Jésus va participer à cette dernière Pâque avec ses disciples, il va prendre la coupe, le jus de raisin qui est utilisé aussi à la Pâque. Il va dire, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le jus de raisin est un symbole du sang versé, du sacrifice de Jésus. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans l'Épître aux Éphésiens, si vous le voulez bien, qui reprend exactement le même sens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Au verset 7, il est écrit ceci. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, au verset 7, il est écrit... En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Par son sang, nous obtenons le pardon des péchés. C'est le symbole, c'est le souvenir que Josué a ramené de la terre promise. Le symbole du sang par lequel nous obtenons le pardon des péchés. Quel beau symbole, quel beau souvenir ramené de la terre promise. Le symbole du sang par lequel nous obtenons, grâce au sacrifice de Jésus, le pardon de nos péchés. Mais ils ont aussi ramené des figues, nous dit le texte du livre des Nombres au chapitre 13. Il a ramené du raisin, il a ramené aussi des figues. Je ne sais pas quelle était la taille des figues, mais si le raisin était si gros, je vous laisse le soin d'imaginer la taille des figues qu'ils ont ramenées. Ils ont ramené des figues. Dans les Écritures, les figues sont connues pour avoir en particulier des vertus de guérison. Et j'aimerais prendre simplement un exemple avec vous dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20. Deuxième livre des Rois. Chapitre 20. Deuxième livre des Rois, chapitre 20. Vous vous souvenez comment le roi Ézéchias, qui régnait alors, a reçu un jour la visite du prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe s'est rendu auprès du roi pour lui dire « Règle tes affaires, le Seigneur m'a chargé de te dire que tu es arrivé maintenant au terme de ta vie. » Le roi, scandalisé par cette nouvelle, prie Dieu, implore Dieu, supplie Dieu de le délivrer. Et à peine Ésaïe était-il parti que Dieu le rappelle et lui dit « Va dire à mon serviteur que je lui donne encore 15 ans de vie en réponse à sa prière. » Et il nous est dit dans le même chapitre au verset 7 ce que Ésaïe dit au roi. De Rois chapitre 20, le verset 7. Ésaïe dit « Prenez une masse de figues. » On la prit, on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Un exemple parmi d'autres qui montre que les figues sont comprises comme ayant une vertu de guérison dans les Écritures. Josué a ramené le raisin, signe du sang versé pour notre pardon. Il a ramené aussi des figues, signe et symbole non pas du pardon, mais de la guérison que Dieu veut donner à notre péché. En effet, le Seigneur ne veut pas simplement nous pardonner. Il veut aller beaucoup plus loin que cela. Il veut nous transformer et nous guérir du péché. C'est le symbole que Josué a aussi ramené de la terre promise. Le signe de ce que Dieu veut accomplir en nous en profondeur, pour transformer, pour guérir, pour restaurer notre caractère à l'image de son Sauveur. Josué a ramené du raisin, il a ramené des figues, et le texte nous dit qu'il a aussi ramené des grenades. Les grenades, dans l'Ancien Testament, sont généralement associées au temple, et plus précisément aux vêtements du sacrificateur. Nous pourrions prendre un exemple de cela dans le livre de l'Exode au chapitre 28. Exode chapitre 28, où il y a là une description partielle du vêtement du sacrificateur. Dans le livre de l'Exode au chapitre 28, il nous est dit ceci au verset 33. Exode, chapitre 28, le verset 33 dit ceci, « Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. » Et il nous est expliqué dans ce chapitre les différentes pièces du vêtement de Aaron, le souverain sacrificateur. Maintenant, nous nous souvenons que Jésus est aussi notre souverain sacrificateur. C'est ainsi que le Nouveau Testament le présente pour nous faire comprendre le sens du rôle qu'avait le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il est notre souverain sacrificateur dans les cieux. Et son vêtement, dans toutes ses composantes, est une image de son caractère parfait, de son caractère pur et sans péché. Les différentes caractéristiques de sa noblesse divine. Ainsi, les grenades sont en rapport directement avec la pureté de ce caractère du Christ. C'est en réalité ce symbole du caractère totalement restauré dont Jésus est le prototype lui-même. Josué a ramené du raisin, symbole du sang par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés. Il a ramené aussi des figues, image de la guérison que Dieu veut réaliser dans notre vie, guérison en profondeur. Il a ramené aussi des grenades qui nous font tourner les yeux vers ce moment où, restaurés entièrement par le Christ, nous le rencontrerons face à face, semblable à lui. Avez-vous remarqué que ces trois fruits sont en réalité les trois grandes étapes du plan du salut que nous sommes invités à vivre par la grâce de Dieu. Le raisin, une image de la justification que nous avons en Jésus-Christ, le pardon des péchés. Les figues, une image de la sanctification, la guérison que Dieu veut accomplir dans notre vie. Et les grenades, une image de cette vie éternelle, de cette pureté auquel le Seigneur nous appelle. Ce programme, il est décrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais lire avec vous simplement le texte que l'apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, où il reprend en réalité les trois mêmes étapes pour nous montrer à quel point Jésus est lui-même la clé de ce plan du salut. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, nous lirons le verset 22. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 22. Il est écrit ceci. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous avez dans ce verset les trois mêmes étapes, les trois mêmes fruits que Josué a ramenés à son peuple. Le pardon des péchés, la guérison dans la sainteté et la vie éternelle, l'objectif qui nous attend. Je pense tout d'un coup à Josué qui vient dans son peuple avec ses fruits extraordinaires, des fruits comme il n'avait jamais vu, des fruits d'une taille inimaginable, à l'image de la grandeur, de la prospérité du pays qui les attend et que Dieu veut leur donner. Du raisin, des figues, des grenades. Le Josué, en réalité, qui rapporte ses fruits devant son peuple, est une image de l'autre Josué, Jésus, et des fruits qu'il veut apporter à son peuple d'aujourd'hui, qui s'apprête à rentrer dans la Canaan céleste. Il nous apporte les mêmes fruits pour que nous puissions y goûter déjà maintenant, car ce seront les fruits que nous mangerons aussi dans l'éternité, dans le royaume des cieux. Mais comment allons-nous apprécier ce royaume des cieux si déjà maintenant nous n'avons pas encore appris à savourer les fruits que le Seigneur nous apporte ? Le Seigneur Jésus est lui-même allé espionner, si je puis m'exprimer ainsi, ce pays promis pour nous. Il nous en a rapporté quelques échantillons du ciel, les fruits de sa grâce, son pardon par son sacrifice, sa transformation qu'il veut opérer en nous. Et finalement, la perfection de notre caractère dans cette vie éternelle qu'il nous propose et qu'il va bientôt nous donner. Mais si nous n'avons pas le goût pour ces fruits maintenant, nous ne les aurons pas non plus pour aller les chercher dans la Canaan céleste. Autrement dit, si aujourd'hui nous ne goûtons pas la saveur de ces grâces apportées par Josué dans les fruits qu'il nous propose, oh, des échantillons, je sais bien, nous n'aurons jamais le goût de vivre avec lui pendant l'éternité, là où ce sont les fruits dont les sauvés se nourriront en permanence. C'est dire à quel point nous nous retrouvons dans une certaine mesure dans une situation analogue à la situation de ce peuple qui est à Kadès-Barnéa, qui a devant lui les fruits de la terre promise et qui trouve encore le moyen de dire « Non, 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 nous allons voir comment nous allons conquérir ce pays et nous nous rendons compte que nous n'y arriverons jamais et que Dieu nous a trompés. » Mais les fruits sont là sous nos yeux. Nous avons autrement dit la possibilité de nous rebeller et de murmurer et de nous plaindre en disant que finalement le temps est long et que Dieu nous a trompés et que ce n'est pas si beau que ça la vie chrétienne et que finalement il y a plus d'inconvénients à la vie chrétienne qu'à l'autre, celle d'avant de l'Égypte. Et nous pouvons avoir dans notre cœur ce désir de retourner en Égypte parce que finalement la terre promise, nous ne la voyons pas comme nous avions pensé. Et nous avons la possibilité de tourner encore 40 ans dans le désert. Mais il y a aussi l'autre possibilité, celle de Josué et Caleb, de prendre ces fruits, d'en jouir maintenant, de chanter les louanges du Seigneur parce que ces fruits sont en fait un avant-goût de la vie éternelle. Ils nous sont offerts, ils nous sont donnés pour nous motiver à la préparation à cette vie éternelle. Et nous voyons sous nos yeux les signes des temps qui préparent la venue de Jésus. Est aveugle celui qui ne les voit pas. Il n'y a même pas besoin aujourd'hui d'être chrétien pour voir les signes des temps. Ce sont les non-chrétiens qui les crient sur les toits. Et les chrétiens ne seraient pas prêts, déjà savourant les fruits du royaume des cieux, à recevoir le Seigneur Jésus dans sa gloire. Cette préparation, c'est celle de tous les jours. C'est celle de ceux qui, dans la simplicité, dans l'humilité, dans le service, goûtent chaque jour les fruits de la grâce, attendant que Jésus, le Josué qui prendra son peuple dans le royaume des cieux, revienne et nous accorde la grâce d'en jouir pour toujours. Amen.